Nous sommes de retour à La Courtine pour ce direct sur les ondes de RPG et Radio Vassivière, donc jusqu'à 17h. Et nous sommes à côté de la salle d'exposition où a lieu un colloque justement sur le centenaire de 1917, La Courtine la mutinerie des Russes, considérée comme la plus grande mutinerie d'histoire du pays, c'est exact ?
La mutinerie des
soldats russes, 16 500 soldats russes, considérés comme mutins. Non, c'est ça qui est annoncé dans le programme.
C'est-à-dire qu'ici, il y a plusieurs milliers de soldats. Mm-hmm. Mais évidemment, en mai 1917, mai et début juin 1917, vous avez entre 30 et 100 000 soldats français qui se sont mutinés. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est sur une grande partie du front. C'est jamais toutes les unités en même temps. Ça peut durer 10 minutes comme ça peut durer 8 jours pour la plus grande des mutineries, donc c'est vrai que ça ne concerne jamais 5000 soldats comme, en même temps comme ça a été le cas à La Courtine.
Donc je vous présente, vous êtes Jean-Yves Le Naour, historien, donc vous êtes intervenu ce matin sur ce thème des mutineries. En quoi la mutinerie donc, des soldats russes, ça s'inscrit dans ce mouvement plus vaste des mutineries de 1917 qui ont eu lieu sur le front?
Alors ça s'inscrit effectivement dans un mouvement plus vaste de désobéissance collective qui prend sa source au printemps 1917 dans l'absence d'horizon. Bien sûr, on dit toujours l'échec de l'offensive Nivelle. Hein, Nivelle avait prévu d'attaquer sur le chemin des Dames le 16 avril 1917. Il avait rassemblé quantité de canons, énormément de divisions. C'était vraiment la plus grosse offensive que l'on avait sur le front occidental depuis 1914. Et donc, il y avait cet espoir de casser le front pour les soldats. Pourtant, l'espoir de casser le front, de rompre le front, il avait été quand même sacrément entamé depuis 1914. Mais curieusement, les soldats avaient gardé cet espoir de revenir rapidement chez soi, que la guerre s'arrête le plus tôt possible. C'est-à-dire, quand ils sont partis en 14, ils se disaient bientôt on sera de retour, ça ne durera pas. C'est l'enfer, mais ça ne va pas durer. Puis après, quand ça s'est bloqué, que les tranchées sont apparues, ils se sont dit au printemps 1915, on va donner un bon coup. Et il y a eu effectivement les offensives de Champagne en 1915 et d'Artois, mais ça a été très meurtrier et le front n'a pas été enfoncé. Et puis il y a eu l'Italie qui est entrée en guerre en mai 1915. On a pu se dire que ça allait bouger de ce côté-là. L'Autriche ne pourrait pas défendre son front avec l'Italie puisqu'elle était déjà aux prises avec la Serbie, hein, et une partie avec la Russie. Donc ça allait s'écrouler de ce côté-là et l'Allemagne ensuite se serait effondrée. Et puis non, rien ne s'est passé. Le front s'est bloqué dans les Alpes. Alors en septembre 1915, il y a eu une grande offensive française en Champagne. On a pu croire aussi que en un mois, deux mois, les choses allaient changer. Et pour l'hiver, on serait de retour à la maison. Mais ce n'est pas le cas. Et comme vous le savez, on se dit, en 1916, on va attaquer au printemps. Et cette fois-ci, on va en donner un bon coup, on va gagner. Mais ce sont les Allemands qui attaquent les premiers à Verdun. Et là, il faut se défendre à Verdun. Mais on se défend. Et quand on regarde les courriers, c'est très net. En se disant que si on bat les Allemands, si on les empêche de vaincre, de prendre Verdun, les Allemands qui auront mis des forces considérables dans l'affaire seront assommées, seront démoralisées et demanderont la paix. On est persuadé de ça. C'est-à-dire qu'on pense qu'à l'été 1916, peut-être que les Allemands vont négocier la paix. Voilà. Et puis, les Allemands, évidemment, ne négocient pas la paix. Mais le 1er juillet 1916, les Alliés, c'est une offensive surtout britannique, attaquent sur la Somme. Et c'est une offensive extrêmement puissante, avec beaucoup de matériel, beaucoup de canons. Et de nouveau, on a l'espoir d'en finir. On ne passera pas un nouvel hiver dans les tranchées. Et puis, en août 1916, la Roumanie entre en guerre. Donc c'est un nouvel allié qui va sans doute vaincre l'Autriche-Hongrie. Hein, on va la prendre en tenaille avec la Russie d'un côté. Il y avait l'offensive Broussilov en juin 1916. La Roumanie, la Grèce, l'armée d'Orient, l'Italie. Bon, tout ça va. Et puis non, rien ne se passe. Au contraire, la Roumanie est écrasée par les Allemands. Les Allemands contiennent les alliés sur le front occidental. L'offensive de la Somme, c'est la plus grosse bataille, la plus meurtrière. Et puis finalement, ça n'aboutit à rien. Ce qui fait qu'à la fin de l'année 1916, le moral des soldats et des poilus français, il est dans les choux parce que il n'y a pas d'horizon. Et quand Nivelle arrive, hein, puisque Joffre, on le remercie pour ses bons et loyaux services, plutôt ses mauvais services, puisqu'il n'y a eu aucune victoire enregistrée finalement sous son autorité. Et on le remplace par Nivelle. Et Nivelle dit, j'ai la solution. Moi, je peux percer le front en 48 heures. En 24 heures minimum, 48 heures maximum. Et le premier jour, on fait 10 km. Et on n'en revient pas, les politiques n'en reviennent pas. Ils lui disent, bon, bah, d'accord, banco. Et alors, ils préparent ça en offensive du chemin des dames, et qui est lancé le 16 avril. Et comme vous le savez, c'est un échec. Il y a à peu près 100 000 morts hein, en 15 jours. Alors évidemment, il y en a beaucoup plus au niveau des pertes, c'est-à-dire blessés, disparus, prisonniers. Et là, il n'y a plus d'espoir. L'espoir est mort. Hein, les soldats ont tenu toujours avec cet espoir que dans 3 mois, que dans 3 mois, que dans 3 mois. Ils ont supporté l'insupportable en se disant « Mais oui, mais bientôt, on rentrera chez nous. » Et là, ils n'y croient absolument plus. C'est la désillusion absolue. Plus d'horizon. On va passer un quatrième hiver dans les tranchées, l'hiver 17-18. Les Allemands sont trop forts, on ne les battra pas. Si on n'a pas réussi à les battre là, avec tous ces canons, tous ces hommes... Bah, on ne les battra jamais, alors il vaut mieux négocier. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais la paix, on n'en peut plus. Il y en a marre, on les a à la retourne. À bas la guerre, etc. Et puis, d'autres slogans comme des permissions, parce qu'on avait suspendu toutes les permissions. Le commandement n'a jamais aimé les permissions parce que ce sont des soldats qui vont à l'arrière, on préfère les garder. Et puis, il y a cette idée que l'arrière bourre les crânes, peut-être qu'ils vont revenir pacifistes, ils vont revenir avec un courage amoindri parce que leurs femmes vont pleurer, ils vont voir leurs enfants, etc. Alors qu'en réalité, c'était tout le contraire. Les hommes avaient besoin de retourner à l'arrière pour retrouver un peu de courage. Toujours est-il que voilà, ces soldats abattent la guerre et des permissions. Et c'est là le début d'un grand mouvement de mutinerie qui court dans l'armée française, qui court aussi d'ailleurs dans les soldats russes du corps expéditionnaire. Hein. Ça a commencé avant l'offensive Nivelle, parce qu'il faut expliquer aussi le contexte. Le contexte, c'est que depuis février, dans le calendrier français, il y a la révolution russe. Il y a le soviet de Petrograd hein, et on élit les officiers en Russie, on commence à se réunir en soviet, à décider si on attaque ou pas, à questionner les plans, etc. Les soldats russes eux-mêmes ont décidé de en France, hein, les brigades russes ont voté pour ou contre la participation à la bataille du chemin des dames. Hein, donc ils sont déjà, c'est déjà. Alors, si vous vous rendez compte, ça ne plaisait absolument pas au commandement français, parce que si on commence à demander l'avis aux soldats s'ils doivent attaquer ou non, voilà.
Ça, risque c'est... de contagion à l'armée française.
Oui, il y avait vraiment cette idée aussi. Alors, est-ce qu'il y a eu vraiment contagion parce que ça a commencé d'abord chez les Russes, mais ce qui est certain en tout cas, c'est qu'il existe cette peur de la contagion dans l'état-major français. Hein. Mais je pense qu'il n'y avait pas besoin des Russes, comme je vous l'ai expliqué, le moral, la désillusion est telle qu'il n'y avait pas besoin de l'exemple de quelques milliers de soldats russes pour que l'armée française entre en crise. Après, il y a le contexte qui pèse, effectivement, la révolution russe, on en parle énormément, on regarde les courriers des soldats, ils parlent énormément de la révolution russe. Et pourquoi on ne ferait pas pareil? C'est pas nécessairement des révolutionnaires, mais les soldats français, mais simplement, la révolution paraît, comment dire, ils sont révolutionnaires dans le sens où la révolution, c'est la paix. Ce qu'ils veulent, les soldats, c'est revenir chez eux. C'est que ça y est, c'est que c'est la paix, que ce soit la paix, revenir dans leur foyer. La guerre, ils n'en peuvent plus. On ne sait pas comment sortir. Ils ne veulent pas la défaite, pour autant. Ce n'est pas des léninistes, ce n'est pas des bolcheviques, dans le sens où ils ne sont pas défaitistes révolutionnaires. Lénine, il parie sur la défaite de son pays pour pouvoir prendre le pouvoir. En France, il n'y a pas de défaitisme révolutionnaire. Il y en a quelques-uns, peut-être, mais les poilunes, par exemple, les mutins, les mutineries ont lieu à l'arrière des lignes, toujours à l'arrière des lignes, dans les cantonnements. Quand on demande aux hommes de remettre leur sac à dos et de remonter aux tranchées, ils disent non, la grève des bras croisés. Voilà. Mais quand ils sont aux tranchées et que les Allemands attaquent, ils les repoussent. Il n'y a aucune fraternisation pendant les mutineries. Ce n'est pas un mouvement aussi révolutionnaire qu'on a pu le dire à l'extrême droite, parce qu'il s'agissait de salir ce mouvement en disant qu'il y a quelques mauvais soldats, c'est un complot allemand, c'est un complot bolchevique, etc. Et à l'extrême gauche, dans la mémoire de l'extrême gauche, on a aussi accentué ce côté révolutionnaire parce que le Parti communiste se disait voilà, c'est les précurseurs de l'idée communiste. Hein, ils s'étaient soulevés contre la guerre et au nom de la révolution, etc. Mais dans les trois quarts des cas, il n'y a pas, on n'arbore pas de drapeau rouge, on ne chante pas international. Dans le quart des mutineries, oui, mais un quart, dans les trois quarts, il n'y a pas de signe politique.
Les soldats fatigués qui veulent rentrer chez eux, voilà. Et qui ne croient plus en leurs généraux.
Et voilà. Et alors, vous avez raison, la lassitude. Et vous avez ajouté une autre idée, on ne croit plus dans les chefs. Là, il s'est passé quelque chose, une cassure complète. Ça avait commencé avant, si vous voulez. Là, dès l'année 1915, on commençait à avoir des récriminations dans le courrier, y compris de la part de chefs entre eux, hein, parce que les généraux sont pas tendres entre eux. Hein, il y a des grosses critiques. C'est Castelnau qui disait que Foch était un épileptique qui disait toujours attaquer. Voilà, c'était un fou qu'on aurait dû enfermer, quoi. Il écrit ça, Castelnau, hein, dans ses courriers. Mais en 1917, voilà, on le dit ouvertement, on n'a plus confiance, le lien de confiance s'est rompu. Et c'est pas la faute des soldats. Hein. Alors évidemment, les chefs diront on les a pervertis, il y a le pacifisme, il y a la révolution, etc. Mais en réalité, c'est toutes ces erreurs stratégiques qui ont fait qu'il n'y a plus de confiance. Voilà. Et la seule façon de restaurer la confiance qui a été rompue, bah, c'est d'arrêter toutes les offensives. À partir de juillet, il n'y a plus d'offensive. Hein. Bon, il y aura des petites offensives de détail à la Malmaison en août, mais plus grand-chose, à part des petites opérations de détail.
Est-ce que vous pouvez revenir sur ce moment, en tout cas, où le contingent russe, en tout cas sa majeure partie, a refusé de monter au front et les formes que ça a pu prendre, on le voit en tout cas dans les ouvrages qui ont été publiés, ces photos magnifiques là, de soldats avec des fleurs à la bandoulière ou arborant le drapeau rouge ou des banderoles pacifistes. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce moment-là ? Et est-ce qu'on a pu observer de telles choses dans les mutineries côté français ?
Alors, Rémi Adam, qui est en train de parler en ce moment au colloque, pourrait en parler bien mieux que moi, parce qu'il a travaillé sur le sujet. Moi, j'ai travaillé sur la France et sur les soldats français. Alors, les soldats russes, vous voyez, depuis la Révolution, depuis février, la question de l'obéissance, elle est posée. Elle est posée parce que bon, ils sont loin, hein, ils sont en France. Et ils savent qu'il y a la révolution. Alors, c'est une révolution républicaine, mais il y a déjà des partages des terres sauvages, hein, des paysans qui font la réforme agraire, hein, en prenant les terres des grands propriétaires, en se les divisant. Et pour une bonne part, c'est des paysans. Donc, ils se disent, mince, on n'est pas là. T'sais, ils sont très intéressés quand même par toutes ces questions. Et comme je vous l'ai dit, quand il faut participer à la bataille du chemin des dames en avril, bon, bah, ils se réunissent, ils votent. Hein, il a fallu qu'un leur colonel vienne, leur demande pardon même, hein, se mette à genoux. Hein, parce qu'il faut imaginer que le commandement dans l'armée russe, dans le corps expéditionnaire comme dans l'armée russe, c'est un commandement qui est assez brutal, c'est un commandement de classe. Hein, on a des aristocrates et on a une armée de paysans. Et entre eux, alors quand je vous disais qu'il n'y avait plus de lien de confiance entre les poilus et leurs chefs, mais alors là c'est plus un lien de confiance, c'est la haine, hein, parce qu'il y a des châtiments corporels. L'officier, il frappe son soldat. On ne voit jamais ça dans l'armée française. Quand vous avez un soldat qui a violé le code ou qui a fait quelque chose de mal, l'officier le punit en le mettant aux arrêts, en le mettant en prison, en l'envoyant au conseil de guerre. Mais il n'y a pas de coup de poing, de coup de pied. Ça déshonorerait l'officier devant ses hommes. Il ne pourrait plus commander. Il serait vu comme un tortionnaire. Eh bien, c'est quelque chose qui est pratiqué. On utilise le knout dans l'armée russe. Donc, vous imaginez ces liens d'autorité, hein, entre les chefs et les hommes qui sont très tendus, très, très questionnés. Alors, quand il y a la révolution, quand il y a cette offensive du chemin des dames, mais alors après le chemin des dames, étant donné que les Russes ont eu quand même des pertes assez élevées, 5 000 hommes, hein, plus question d'attaquer, plus question d'obéir, et on ne sait plus quoi faire de ces soldats au front. On ne sait plus quoi faire. C'est pour ça qu'on en a fini par les emmener loin, loin du front, parce qu'on a peur de la contamination. Alors vous me parliez de cet exemple éventuel.
Mais c'est-à-dire, en tout cas, dans les formes que prennent, qu'ont compris la mutinerie des soldats russes, qu'il y a des formes qu'on retrouve aussi chez les soldats français.
Oui, alors on retrouve, comme dans beaucoup de mutineries, mais en même temps, elles sont très diverses. Alors, on retrouve, par exemple, souvent, les soldats sont alcoolisés. Ah, on a bu un petit coup, quand même. Et les Russes, c'est pas les derniers pour descendre une bouteille. Mm-hmm. Alors, et ensuite, il y a les banderoles, bien sûr. Il y a le drapeau rouge. Hein. Alors, vous parliez des fleurs, on est au printemps. Hein. Oui, on peut mettre des fleurs dans le canon de son fusil. Hein. C'est d'ailleurs, ça renvoie un petit peu à ces images d'août 14, où on était parti en guerre, la fleur au fusil. Hein. Et là, cette fois-ci, on met des fleurs dans le canon, mais ça n'a pas la même signification. Mmh. hein, à Balaguer, des défilés dans le village. Et puis, on va voir aussi les unités voisines. Hein, on pousse les unités voisines à suivre le mouvement, hein, à débrayer en quelque sorte. Je dis débrayer parce que les soldats français, pour parler des Français, ne se sentent pas mutins. On parle toujours des mutineries, mais c'est un vocabulaire finalement qui est un vocabulaire militaire. Ce sont des mutineries à partir du moment où les soldats n'acceptent plus les ordres, hein, refusent de monter, contestent les chefs, etc. Ce sont des mutineries. Sur le plan légal, sur le plan du code, pour le code de justice militaire, ce sont des mutins. Mais eux, ils ne pensent pas mutins. Eux, ce sont des Français, des citoyens qui avaient des droits, hein, et qui pensent encore en avoir, même s'ils sont sous l'uniforme. Et donc, ils contestent l'ordre militaire au nom de l'ordre républicain. C'est-à-dire, bah, ils écrivent par exemple à leurs députés pour dire « il y en a marre, on nous fait tuer pour rien, etc. Il faut que vous nous défendiez, etc. » Il y a parfois des unités qui veulent aller à Paris, aller à l'Assemblée pour parler aux députés. Ils ne savent pas ce qui se passe. Hein, on va leur dire. Certains ont dit qu'ils veulent aller à Paris faire la révolution. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'aller voir les députés pour leur dire la réalité. En réalité, les députés savent ce qui se passe, mais on ne peut pas mettre on peut pas mettre l'armée en accusation. Hein, on doit avoir confiance dans son armée et il faut gagner la guerre. Donc il faut que l'ordre soit rétabli, que la discipline revienne. On ne peut pas gagner la guerre dans une situation anarchique. Hein. Ils écrivent à la Ligue des droits de l'homme. Ils font des pétitions. Par exemple, ils rédigent leurs revendications. Ils vont voir le colonel avec la liste de revendications. Et quand on regarde leur courrier, les soldats français disent « nous nous mettons en grève ». C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mouvement social. Voilà, c'est la grève de la guerre, en quelque sorte. Alors, on veut des revendications, on reprendra le combat que lorsque nos revendications seront satisfaites. Alors, par exemple, on veut des permissions, un roulement qui... c'est pas une permission une fois tous les 8-9 mois, hein, mais c'est une fois tous les 4 mois. On veut manger chaud, au lieu on mange toujours froid. Alors, en même temps, on renvoie, vous voyez, sur le terrain, légal, hein, et parce que « à Balaguer », c'est beau comme slogan, mais ils n'ont pas les moyens. Sauf à envisager la défaite, comme l'ont fait les soldats russes sur le front russe, c'est-à-dire en désertant et donc en acceptant la défaite. Mais quand vous n'acceptez pas la défaite de votre pays, alors si vous voulez pas déserter, abandonner le front, faire la révolution, qu'est-ce qui vous reste ? Bon, ben vous repliez sur le terrain légal de ce que vous pouvez obtenir. Donc un ensemble de revendications et finalement voilà, ils sont dans l'ordre républicain, ils se pensent citoyens soldats qui défendent leurs droits, des droits qui sont piétinés par l'ordre militaire, voilà, par de mauvais chefs, par l'ordre militaire. Il faut que les choses changent, voilà. Et ils se pensent pas mutins, vous voyez, finalement, simplement à partir du moment où vous désobéissez au code de justice militaire, bah, c'est la mutinerie, et la mutinerie ça vous emmène au poteau d'exécution.
Voilà, est-ce que justement la mutinerie, c'était pas un moyen pour l'état-major de présenter ses soldats comme des mauvais soldats, comme des traîtres qui refusaient d'aller défendre la patrie, et d'avoir derrière un appareil répressif permettant de mater vraiment toute revendication dans l'œuf, quoi.
Bah, et oui, évidemment, les chefs ont dit, enfin l'état-major, les généraux, on dit que c'était un complot, qu'il y avait un certain nombre de traîtres ou d'agents bolcheviques ou d'agents allemands, hein, on parle d'un complot allemand plus exactement, qui s'était infiltré et puis qui avait pourri le moral des soldats, ou alors qui, de Paris, avait bourré le crâne des permissionnaires qui ensuite avaient propagé le mauvais esprit. Donc l'arrière vient aussi de la presse. La presse qui a relaté la révolution russe, des mauvais députés qui ont tendance à saper le moral du pays aussi en disant la vérité, en quelque sorte. Donc le mal ne vient pas de l'armée. Le mal ne vient pas de la stratégie, la mauvaise stratégie. Le mal ne vient pas d'eux. L'armée est pure. Il y a quelques mauvaises têtes qui ont pourri ce corps qui était honnête. Et ça veut donc dire que si on retranche, comme vous le disiez, si on retranche la partie malsaine de la partie saine, on va sauver l'armée. Et ça permet donc ça amène évidemment à la répression. Voilà, il faut trouver des meneurs. L'armée dit il y a des meneurs. Hein,
il fallait un coup des coupables, des boucs émissaires qui permettaient aussi de justifier les errements stratégiques. Et
tout à fait. À partir du moment où vous dites non, on n'est pas responsable, offensive Nivelle. Non, il n'y est pour rien. À ce moment-là, il faut trouver des responsables aux mutineries. Donc, à ce moment-là, vous dites, il y a des meneurs, etc. Et à partir du moment où vous dites, il y a des meneurs, vous allez en trouver. Hein. Mais en réalité, il n'y en a pas des meneurs. Bien sûr, dans tel cas, tel cas, tel cas, parce qu'il y a de multiples mutineries, vous allez trouver ici hein, une forte tête qui va conduire le mouvement, mais en réalité, c'est vraiment quelque chose qui part de la base, où il n'y a pas de chef.
Un mécontentement global, général.
Oui, c'est ça. Alors, comme on a des lunettes comme ça, en disant c'est un mouvement, c'est un complot, c'est un coup monté, il y a des meneurs, on va en trouver. Hein, on va en trouver. Alors, il y aura toujours un syndicaliste, un socialiste ou même un pauvre type, hein, paf, pour passer en conseil de guerre. Alors, la répression est quand même assez sévère. On a quand même 3400 condamnés. Hein, alors, oui, sur un total de mutins qui est assez limité, c'est-à-dire que il y a eu des estimations de fait, 30, 40 000 selon l'historien Guy Pedroncini, 80 000 selon l'historien, son nom m'échappe,
un autre
historien en 2005. Hein, voilà.
Très éminent.
C'est ça. Mais en fait, il y a tous ceux qui, silencieux, hein, quand vous êtes dans un groupe de 200 bons hommes, là, et puis quand le colonel arrive et dit bon, sac à dos, vous remontez. Et puis, il y en a 100 qui mettent leur sac, puis 100 qui restent les bras croisés, comme ça. Bah, ceux qui mettent leur sac, tout d'un coup, ils s'arrêtent. Mmh. Eux aussi, ils n'ont pas envie de remonter. Hein, ils s'arrêtent et puis ils regardent ce qui se passe. Et voilà. Oui, il y a une majorité silencieuse qui a soutenu aussi ce mouvement. Les chiffres ne sont pas très importants, mais en revanche, les deux tiers, voire les trois quarts des unités françaises ont été touchées. Mmh. Donc c'est vraiment un mouvement de fond.
Est-ce qu'on a des chiffres sur la répression de ces mutins?
Oui,
par
oui,
l'armée?
Oui. 3400 ont été condamnés. Plus de 550 ont été condamnés à mort. Et il y a eu, sur ces 550, une cinquantaine d'exécutions. Alors, pour expliquer que 90% n'ont pas été fusillés sur ces condamnés à mort, c'est que le président Poincaré, le président de la République, a gracié à 90%. Donc d'un côté, Pétain, puisque Pétain a remplacé Nivelle à partir du 15 mai, Pétain a manié la répression avec force, hein, parce que 550 condamnations à mort, c'est quand même... À un moment donné, même, il a eu des pouvoirs extraordinaires. On n'avait plus le droit de faire appel et on pouvait juger sans instruction, pour aller vite. Hein. Comme ça, ça évite de rassembler des témoins, de ceci, de cela.
Il a pris de funestes habitudes.
Oui, oui, oui. Et puis en plus, il est assez malin, c'est-à-dire que on ne sévit pas tant que les mutineries sont en hausse, et ça monte jusqu'au 1er juin, en gros. Et puis à partir du 1er juin, ça va régresser. Comment ça va régresser? Parce que Pétain, il est assez malin, il va contenter les soldats. Puisqu'il réclamait des permissions, il va les faire partir en permission. D'abord, on n'attaque plus. Hein. On n'attaque plus parce qu'on n'a plus les moyens d'attaquer. Hein. Les soldats qui sont... On ne peut plus les envoyer en première ligne. Donc déjà, on n'attaque plus. C'est ce que voulaient les soldats, déjà, on n'attaque plus. Et puis, on les envoie en permission. Il y a des semaines où il y a 20% de l'armée française en permission. Jusqu'à 25% dans les unités qui sont mutinées. 25-28% de soldats en permission par semaine. Donc, allez-vous-en, repartez dans vos foyers. Et puis, quand ils reviennent, ouais, l'atmosphère a changé, on a repris en main. Voilà.
Entre-temps, on a désigné des meneurs que eux, on a fait traduire devant la justice
militaire. Oui, et les premiers fusillés, c'est à partir du 11 juin. Hein, donc c'est quand le mouvement il s'est replié, on tape, c'est-à-dire quand on ne tape pas quand le mouvement est fort, parce que ça pourrait s'étendre, il pourrait y avoir une solidarité des soldats. Quand le mouvement est en train de se calmer, voire s'est calmé, là on commence à arrêter, on commence à juger, on commence à fusiller. Voilà, une cinquantaine de fusillés, officiellement 28 pour mutinerie et un peu plus de 20-25 pour défaite, désobéissance individuelle. Mais en réalité, désobéissance collective, désobéissance individuelle, c'est souvent la même chose, car il y a des instructions de Pétain pour dire aux officiers comment transformer une mutinerie, un fait de désobéissance collective en fait de désobéissance individuelle. Il dit, dans un groupe qui désobéit, prenez-en un soldat et donnez-lui un ordre précis. S'il refuse d'obtempérer, d'obéir, alors vous prenez son nom et vous l'envoyez en conseil de guerre. Et comme ça sera un exemple pour tout le groupe. Vous n'envoyez pas 200 personnes au conseil de guerre, c'est pas possible. On en envoie un seul. Mais et on a transformé un fait de désobéissance collective en fait de désobéissance individuelle. Comme ça, sur le papier, c'est pas une mutinerie, mais en réalité,
c'est une méthode qui a été bien reprise par le patronat également lors de grèves. En tout cas, Pétain, qui avait cette réputation quand il est arrivé d'épargneur d'hommes, par rapport à ses prédécesseurs, oui. Donc réputation.
Il avait cette réputation et il va d'ailleurs, il a été très populaire parmi les soldats et pendant très longtemps parmi les anciens combattants, parce que justement il a cessé toutes les attaques. Mais comme je l'ai rappelé, l'armée française n'était plus en position d'attaquer. Hein. Donc on peut dire aussi que ce sont les mutins qui ont protégé aussi tous leurs camarades en empêchant toute autre attaque. Alors c'est vrai que Pétain, il était un petit peu en situation de querelle avec la majorité de l'état-major qui, jusqu'en 1917, pariait sur l'offensive et nivelle. Voilà, c'est la caricature absolue, l'offensive-offensive. Lui, il parie, Pétain, sur la défensive. Et donc, il prend une décision le 19 mai qui calme aussi... Enfin, qui calme, pas tout à fait qui calme, parce que ça va monter jusqu'au 1er juin les mutineries. Mais il prend la décision de ne plus mener d'offensive de grand style. C'est-à-dire, OK pour les offensives de détail, les opérations de détail, mais plus de grandes offensives générales, tant qu'on n'aura pas la supériorité matérielle, tant qu'on n'aura pas la supériorité numérique. Les Américains sont entrés en guerre en avril. Hein, on va attendre qu'ils débarquent. Hein. En juin, le 26 juin, ils débarquent à Saint-Nazaire. 1000 soldats, hein, c'est pas beaucoup, mais ils sont 80 000 en octobre 1917. Ils seront 500 000 au mois de mars. Hein, et puis ils seront 2 millions en 1918. Et ils seront 2 millions en novembre 1918. Donc si la guerre dure et si les Français parviennent à tenir, eh bien, en 1919, on finira par gagner la guerre. C'est ça le calcul de Pétain. Et c'est pour ça qu'il a été aimé aussi par les soldats. C'est qu'on a cessé toutes ces grandes boucheries que ses prédécesseurs faisaient.
Je voudrais qu'on revienne. Vous avez publié un ouvrage sur cette question des fusillés, qu'on a appelé les fusillés pour l'exemple, hein, sur la question de la mémoire de cette histoire tout au long du XXe siècle et de la question de leur réhabilitation.
Oui. Alors la question de la réhabilitation... on croit que c'est une question contemporaine, mais en réalité, c'est une question qui a hanté la société française dans les années 20, essentiellement. Les journaux d'anciens combattants, une majorité de députés, combattaient pour la Ligue des droits de l'homme, combattaient pour la réhabilitation. Et il y a eu 50 cas de réhabilité, 50 cas de fusillés réhabilités sur environ 650 fusillés entre 1915 et 1935. Le dernier, c'est 1935. Et puis, On a même créé une cour spéciale de justice pour réviser un certain nombre de dossiers entre 1934 et 1935. Et puis à partir de 1935, plus rien. On n'en a plus parlé parce qu'il y avait une autre guerre qui était en train de monter, des bruits de bottes. Et on n'est plus à se focaliser sur les horreurs individuelles de la Première Guerre mondiale quand une nouvelle boucherie s'annonce et des millions d'hommes vont mourir. On n'en est plus à se focaliser sur le cas d'un tel ou un tel ou un tel. Donc ça a été un peu oublié. Dans l'après-guerre, finalement, c'est revenu avec le film de Stanley Kubrick, Les Sentiers de la Gloire, hein, qui a créé un débat, mais en réalité, débat très limité, puisque le film n'a pas été distribué en France. Personne ne l'a vu en France. Alors oui, il n'y a eu aucun producteur. Hein, officiellement, il n'a pas été censuré. Il n'a pas
trouvé de réseau de distribution. Voilà, ça existe encore comme méthode.
Oui, voilà, c'est ça. C'est ça ce qui se passe dans une démocratie. Dans les dictatures, on interdit, mais c'est plus subtil dans les démocraties. Et finalement, il faut compter sur le retour de l'intérêt pour 14-18 dans les années 80-90 pour que les fusillés reviennent. Puis c'est aussi parce que les fusillés, c'est un petit peu notre mauvaise conscience. Si vous y réfléchissez, il y a eu 1 500 000 morts, 1 400 000 morts. 1 400 000 morts. Et de l'autre côté, il y a 650 fusillés. Mais c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau dans ce grand sacrifice, dans toute cette grande boucherie. Mais pourquoi, tout d'un coup, pourquoi cette question nous tracasse? Pourquoi on en parle autant alors que finalement, c'est pas grand-chose. Alors, on regarde 1 400 000 morts. C'est parce qu'ils sont pas morts comme les autres. C'est parce qu'ils sont considérés comme des victimes. C'est parce qu'ils sont tombés sous des balles françaises et pas sous des balles allemandes. Ils sont pas dans la même tombe que les autres. Et c'est des morts inapaisées, un petit peu comme les fantômes, vous voyez, qui n'ont pas été enterrés. Hein. Ils continuent à nous obséder, à nous hanter, parce qu'on n'a pas réglé le problème. Et tant qu'on les aura pas enterrés dans la fosse commune de notre histoire tragique, aux côtés des autres victimes, tant qu'on les aura pas reconnus comme des victimes, comme les autres, eh bien, ils continueront à nous hanter. Et on l'a vu ressurgir, le problème. Alors, dans la bande dessinée, dans le cinéma, dans le roman, on voit bien que ça nous hante. Et puis, même chez les politiques, alors on a vu Jospin, en 1988 sur le chemin des dames, qui a relancé la question. Et alors là, oh là là, à la droite, qu'est-ce qu'on a pu entendre ? Sauf que 10 ans plus tard, Nicolas Sarkozy, à Verdun, prononce un discours où il dit exactement la même chose que Lionel Jospin. C'est-à-dire qu'on voit bien que finalement, la mémoire de droite et de gauche, qui pendant longtemps s'étaient opposées sur la question, maintenant, grosso modo, hein, elle est... assez unanime. Alors bien sûr, il y a encore des groupes de pression, des lobbies. On l'a vu encore récemment lors des commémorations sur le chemin des dames, qui ont écrit à François Hollande pour dire c'est inacceptable de jouer la chanson de Craonne, etc. Mmh. Mais très majoritairement, dans l'opinion française, il y a ce consensus pour dire que les soldats de 14-18 sont des victimes d'une histoire qui les a dépassés et les fusillés sont aussi des victimes de cette grande tragédie.
Ils n'ont pas été tous réhabilités en tout cas.
Alors non, il y a une cinquantaine de cas de réhabilité jusqu'en 35. En 2011, vous avez un cas particulier, c'est le lieutenant Chaplan qui a été déclaré mort pour la France par décision souveraine, j'ai envie de dire, du secrétaire d'État aux anciens combattants de l'époque. Mais la décision de justice à son endroit n'a pas été cassée. Donc, c'est-à-dire qu'il est officiellement, officiellement un lâche qui a déserté et qui a été fusillé. Et en même temps, on l'a déclaré mort pour la France. Vous voyez, ça devient n'importe quoi. Donc on en est là, on en est toujours là. Le problème en France... je sais que les Britanniques ont réhabilité, les Canadiens ont réhabilité, les Néo-Zélandais ont réhabilité leurs fusillés. Mais en France, la décision, je vous ai parlé d'une mémoire unanime à peu près des Français, hein, on n'est jamais totalement dans l'unanimité, mais on est bien à 80-90%. Mais le problème en France, c'est que la décision appartient à une seule personne, c'est le président de la République. C'est ça, la Ve République. Et si on était dans un régime parlementaire, les députés auraient voté sur la question depuis longtemps. Et le problème, c'est que le président de la République est aussi le chef des armées. Voilà. Et le chef des armées, eh bien... on l'a vu avec François Hollande, quand il était président du Conseil général de Corrèze, eh bien, il s'était engagé, questionné sur la question avant, pendant la campagne électorale, avant son élection, il s'était engagé à réhabiliter les fusillés. Devenu président, devenu chef des armées, tout d'un coup, cette question est plus embarrassante pour lui et il a botté en touche en installant une petite étagère au musée de l'armée. Donc qu'on parle de cela, c'est-à-dire que la réhabilitation soit mémorielle, voilà, qu'on ne cache pas qu'on parle. On a numérisé aussi les dossiers des fusillés, donc on les a exposés. On ne dissimule plus, mais réhabiliter, non. Je crois qu'il faudra entendre encore quelques années.
Est-ce qu'il y a eu quand même, parce que vous avez parlé des Néo-Zélandais, des Britanniques, est-ce qu'il y a eu des épisodes de mutinerie ou de protestation de l'autre côté du front, côté allemand ?
Côté allemand, eh bien non. Les premières mutineries qu'on enregistre, eh bien, c'est en octobre 1918 et c'est le début de la fin. C'est le début de la fin. C'est-à-dire que les soldats allemands, comme les civils allemands, ils ont tenu jusqu'au bout. Mais quand ils voient qu'on leur promet une grande bataille sacrificielle, parce que c'est une mutinerie qui a lieu dans la marine, en fin octobre 1918, les Allemands sont en train de négocier, le gouvernement est en train de négocier avec Wilson, le président Wilson, pour éventuellement faire un armistice, c'est-à-dire que voilà, ils sont complètement à bout et ils vont bientôt lever le drapeau blanc. Et on va déposer les armes. Et voilà que la marine, qui sait très bien que les Britanniques, lors des conditions de l'armistice, exigeront que la marine allemande soit livrée à la marine britannique. Enfin bref, donc ils veulent faire un baroud d'honneur. Voilà, les officiers disent. On va sortir et on va défier la marine britannique. On va se faire couler, bien sûr. On va tous mourir, mais on aura sauvé l'honneur. C'est ce que pensent les officiers, mais les marins, eux, ils veulent pas mourir pour rien. Hein, c'est une mutinerie qui commence comme ça, par des soldats qui disent mais la guerre est terminée et dans quelques jours, on va signer l'armistice et puis vous voulez faire un baroud d'honneur et nous sacrifier. Hors de question. Et puis en plus, c'était même quelque chose dans le dos du gouvernement. Le gouvernement avait demandé de plus torpiller, de ne plus faire de grandes opérations, etc. Et eux, dans le dos du gouvernement, parce qu'ils étaient très hostiles à l'idée de l'armistice.
C'était une mutinerie, quelque part, de refuser d'envisager la paix.
C'est une mutinerie, mais en même temps, ils défendent le gouvernement face à des officiers militaristes, nationalistes, extrémistes, qui, eux, refusant l'armistice, sont prêts à l'annihilation, au sacrifice suprême. C'est comme en 1945, en 1945, hors de question de se rendre, si on est défait, on ne mérite pas de vivre. Donc on va aller jusqu'à la destruction absolue.
Mais les soldats ne veulent pas ça, en fait.
C'est les officiers qui
mutinent contre les ordres de leur propre gouvernement.
Mais oui, c'est ça. Les vrais mutins, hein, et là en l'occurrence les salauds, parce que ce sont eux qui veulent provoquer une bataille inutile.
Ils se mutinent pour envoyer les autres se faire tuer.
Oui, une bataille inutile, une bataille qui va être meurtrière et totalement inutile. Ça n'a aucun sens, tout ça pour l'honneur prussien. Vous voyez, les marins, évidemment, ils ne comprennent absolument pas ça. Et cette mutinerie, c'est le début de la Révolution allemande. Parce que cette mutinerie va se répandre de ville en ville. Et à la fin, vous avez un soulèvement à Berlin, etc. Excusez-moi. Le Kaiser finit par fuir. Parce que pour rétablir l'ordre, il faut envoyer l'armée. Hein, donc, et l'armée, elle dit à l'empereur, hors de question de tirer sur des Allemands, surtout dans notre situation, etc. On a demandé à la troupe, est-ce qu'il y a une armée qui serait prête à marcher sur Berlin ? Il n'y a aucune armée qui dit non, hors de question. Donc il y a même des tas de désertions qui commencent, puisqu'on n'y croit plus, on est en fin octobre, etc. Donc c'est la révolution. Le Kaiser s'enfuit vers la Hollande. La République est proclamée le 9 novembre. Donc là, on peut dire qu'en Allemagne, la révolution est née par une mutinerie. Mais une mutinerie qui défendait la liberté, qui défendait la République, qui défendait le droit à ne plus mourir inutilement et qui défendait l'idée de paix.
Merci Jean-Yves Le Naour. Vous avez publié plusieurs ouvrages autour de la guerre 14-18 et notamment la question des fusillés. Quels sont-ils et comment peut-on se les procurer ?
Alors oui, j'ai publié un certain nombre d'ouvrages. J'ai toute une série chez Perrin, 1914, 1915, 1916, 1917. 1918 est paru l'année dernière. Et on peut se les procurer dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre.
Merci, les programmes continuent. Tu voulais ajouter quelque chose, Julien ?
Non, merci.
Merci d'être venu. En tout cas, on continue le direct encore quelques minutes jusqu'à 17h, toujours sur les ondes de Radio Vassivière et Radio Pays de Guéret. Et Didier, tu peux nous lancer le déserteur par Boris Vian.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. « je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.